plateforme. Les sciences humaines.
Cité des sciences et de l'industrie. Parole de Gaulois, le quotidien au temps des Gaulois, avec Mathieu Pou.
Merci à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette de me permettre de revenir sur les lieux du crime, puisqu'effectivement, comme il vient d'être rappelé, j'ai commis, en réalité, non pas tout seul, mais avec mon collègue François Malrin, qui est co-commissaire de cette exposition Gaulois, une exposition renversante, nous avons commis donc l'exposition que vous avez déjà eu l'occasion, je suppose, de visiter. En réalité, nous étions uniquement commissaires scientifiques. L'exposition a été réalisée par une équipe de la Cité des sciences qui a fait preuve d'un savoir-faire exceptionnel pour médiatiser nos découvertes, pour tâcher de transmettre l'intérêt de l'archéologie et surtout les résultats qu'on peut obtenir au travers de l'archéologie en matière de connaissance du passé appliquée à la période gauloise, qui est une période qu'on connaît très mal. Et donc, parallèlement à l'exposition et à l'ouvrage dont on vient de rappeler l'existence, il avait été décidé d'organiser un cycle de conférences. Et ces conférences sont destinées à éclairer certains aspects de l'exposition qui sont abordés, certes, mais de manière assez superficielle ou rapide, puisqu'il s'agit d'un outil de médiation à destination du grand public. Parfois, on reste un petit peu sur sa faim pour certaines questions. Et donc, il avait été décidé d'inviter des collègues pour éclairer certains aspects qui sont traités marginalement dans l'exposition. Alors, ma position est un petit peu délicate, dans la mesure où je suis à la fois commissaire de l'exposition et où le sujet qui m'a été affecté traite du quotidien au temps des Gaulois. Et il y a un petit décalage entre le titre de la conférence et puis les présupposés qui viennent d'être énumérés, à savoir qu'il est dit que nous traiterons de l'organisation sociale, de la condition des femmes, des esclaves, des métiers, des lieux de vie. C'est très vaste et ce sont des questions qui sont déjà abordées dans le cadre de l'exposition. Donc je tâcherai d'éviter les redites. Et surtout, ce sont des questions qui risquent d'être évoquées par d'autres conférenciers qui aborderont, eux, par exemple, la question de la guerre, de la religion, de l'art à l'époque gauloise. Et il sera très difficile de traiter de la société sans empiéter sur leurs prérogatives. Donc je vais éviter de leur couper l'herbe sous les pieds parce qu'ils viendront d'ici quelques semaines pour présenter eux-mêmes leur vision de la société gauloise. Et je tâcherai de me concentrer sur la vie quotidienne au sens très large. Alors l'exposition tâche d'aborder ces questions-là au travers des techniques de l'archéologie, la palynologie, l'archéozoologie, l'étude des céramiques, l'étude des paysages, l'étude des objets métalliques. Et là, nous allons prendre les choses un petit peu à l'envers, dans la mesure où on va tâcher de brosser un tableau de la société gauloise, qui soit le plus large possible, et surtout de la vie quotidienne à l'époque gauloise, non pas au travers des méthodes, mais on va partir des différentes questions qu'on peut se poser sur les Gaulois, leur apparence physique, vestimentaire, leur lieu de vie dans les campagnes, mais aussi dans les villes, les pratiques domestiques qui se déroulent au sein de la maison, de l'espace domestique, les métiers, les activités artisanales, commerciales, tout cela vu au travers des objets laissés, découverts dans les fouilles, laissés par les populations anciennes et découverts dans les fouilles, et ceux qui ont laissé le plus de traces, les catégories de populations qui ont laissé le plus de traces, à savoir les populations relativement aisées qui bénéficiaient de biens qui nous sont parvenus. On tâchera d'évoquer également, mais en filigrane, le peu que l'on sait des femmes, des enfants ou des esclaves, qui sont des catégories de population à la fois peu évoquées dans les textes antiques et assez difficiles à saisir, à appréhender du point de vue archéologique. On tâchera de les évoquer, en tout cas, au détour de tel ou tel aspect. Bon, voilà une petite scène de vie qui nous introduit d'emblée dans le sujet. En réalité, pour aborder les Gaulois, il faut d'abord partir des clichés. Parce que cette exposition est partie du constat que l'archéologie, l'histoire, a apporté énormément à la connaissance des Gaulois au cours des dernières décennies, a renversé un grand nombre de clichés, d'où le titre, une exposition renversante. Et ces clichés, ils se trouvent tout entiers concentrés dans des manuels scolaires qui étaient en usage jusqu'à il y a peu. Et le premier de ces manuels scolaires, qui a imprégné des générations d'écoliers de la Troisième République jusqu'aux années 1950, 1960, 1970, même dans des écoles qui l'utilisaient encore il y a quelques décennies à peine, c'est le fameux Lavis, le fameux petit Lavis destiné aux cours moyens et cours élémentaires, qui débute sur un chapitre dédié aux Gaulois. Alors nous allons le lire ensemble, rapidement, alors non pas lire in extenso, mais on va regarder un petit peu, examiner le début de cet ouvrage. Donc, il est dit, le ton est assez badin, il est à l'attention des écoliers, il y a un effort de pédagogie qui est fait. On nous décrit tout d'abord des maisons gauloises, avec un petit frontispice, des dessins qui sont assez intéressants. Alors, autrefois, notre pays s'appelait la Gaule et les habitants s'appelaient les Gaulois. Notre pays a bien changé depuis lors et nous ne ressemblons plus guère à nos pères les Gaulois. Donc, d'emblée, on instaure une différence fondamentale entre les populations du 19e siècle, du 20e siècle et les Gaulois. Bon. Comment vivaient les Gaulois ? Puisqu'on traite de la vie quotidienne. Les Gaulois habitaient des maisons faites avec de la terre et couvertes en paille. Ces maisons n'avaient qu'une porte et pas de fenêtre. La fumée sortait du toit par un trou parce qu'il n'y avait pas de cheminée. Vous n'aimeriez pas habiter de pareilles cabanes. La fumée vous piquerait les yeux et vous ferait pleurer. Alors, on cherche à pitoyer un petit peu les écoliers. L'image vous montre une maison gauloise. Donc, c'est l'image que vous avez à droite. Vous voyez à droite un Gaulois. Il a les cheveux très longs. Sa moustache est très longue aussi. Il est habillé d'une blouse, d'un pantalon et d'un manteau agrafé sur l'épaule. Le manteau est fait d'une peau de bête. Il n'est pas dit de quelle bête il s'agit, dinosaure, mammouth, on ne sait pas. Si vous rencontriez un homme comme celui-là dans la rue, vous seriez bien étonné. Vous croiriez que c'est un sauvage. Alors, sauvage, c'est un petit peu fort, mais dans le contexte de rédaction du manuel au 19e siècle, on sait très bien ce que c'est qu'un sauvage. On va de l'autre côté de la Méditerranée, un petit peu au-delà des Indes, dans les colonies, et on imagine très bien à quoi ça correspond. Ensuite, on nous dit que le Gaulois va partir pour la chasse, il tient une lance à la main. Avec cette lance, il attaquera les cerfs, les sangliers, les loups, qui étaient alors très nombreux dans notre pays. Bon, pays un peu inquiétant quand même. Aussi, les Gaulois passaient une grande partie de leur temps à chasser. Ensuite, on nous parle de la maman gauloise, qui est un bel effort de mixité quand même. On ne parle pas uniquement des guerriers et des chasseurs gaulois. La maman gauloise que vous voyez assise donne au plus grand de ses enfants un arc et des flèches pour tirer sur les oiseaux. Le garçon suivra son père à la chasse. Il n'ira pas à l'école pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas d'école en Gaule. Personne n'y apprenait à lire ni à écrire. Vous ne voudriez pas être des ignorants comme ces petits-là. Bon, on ne va pas lire les pages suivantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe très vite à Vercingétorix et à la Gaule d'après la conquête. Et simplement, je vais lire une phrase pour marquer le contraste. Voici une place de ville, ville gauloise. Vous y voyez de beaux monuments à colonnes, une fontaine verse son eau, nuit et jour. Cette ville est une ville gauloise. Vous devez être étonné de voir une si belle ville en Gaule, car vous avez vu l'autre jour une maison gauloise bien misérable. Bon, les Romains sont passés par là, la conquête romaine apporte enfin à ces Gaulois sauvages, arriérés, qui vivaient au fond de la forêt, au milieu des loups et des sangliers, la civilisation. Très bien. Alors, bon, ce texte, rétrospectivement, fait sourire, surtout pour ceux d'entre vous qui ont visité l'exposition, on est très très loin du compte. Comment l'interpréter ? Il faut l'interpréter dans son contexte. Qu'est-ce qu'un sauvage au 19e siècle, à la fin du 19e siècle ? Il faut bien penser que la France de la fin du 19e siècle, elle ne ressemble pas forcément à la France de la vie, mais elle ressemble à ceci. Puisque, comme vous le savez, jusqu'à l'exode rural de la dernière guerre mondiale, jusqu'aux années 1940, une majorité écrasante, même de la population française, réside à la campagne, dans des campagnes plus ou moins reculées, non pas au fond des bois, mais au fin fond de la Bretagne, ou du Morvan, ou de l'Auvergne, comme ici en bas. Et quand on parcourt la France à l'époque de Lavisse, dans les années 1880-1890, eh bien, la France que l'on rencontre, c'est celle-là. C'est une France de chaumières, une France de paysans. Et le manuel marque bien la différence avec cette France de paysans. C'est-à-dire que là, on a affaire à des Gaulois qui sortent à peine de la préhistoire, qui sont comme des hommes préhistoriques, au fond de huttes pleines de fumée, au fond de la forêt, au milieu des bêtes sauvages. Donc, on marque le contraste d'autant plus volontiers que la France, à cette époque-là, eh bien, n'est pas la France d'aujourd'hui. Est-ce que l'on a beaucoup évolué depuis ? Eh bien, c'est un constat, c'est une question qui s'est posée dès les années 1990, et c'est Christian Goudineau, professeur au Collège de France, ancien professeur au Collège de France, puisqu'il est parti à la retraite l'année dernière, qui s'est posé la question dans le cadre d'un ouvrage intitulé « César et la Gaule ». Et en introduction de cet ouvrage, paru en 1992, il a réalisé un petit sondage, un petit micro-trottoir, avec des questions toutes simples. Alors, en réalité, ce n'est pas un micro-trottoir. Christian Goudineau a posé la question à son cercle d'amis cultivés, professeurs de lycée, professeurs au Collège de France peut-être, d'université, la famille, les cousins, etc. Et il a posé les questions toutes simples. Les Gaulois étaient-ils plus proches, par exemple, des hommes préhistoriques ou plus proches des Romains ? Et là, il a été totalement atterré par les réponses, puisque vous voyez, 50% des sondés répondent plus proches des hommes préhistoriques. 28% seulement, moins d'un tiers, répondent que les Gaulois sont plus proches des Romains. Et puis, toujours prudent, 22% ne savent pas. Bon, on connaît l'intérêt de tel sondage. D'autres questions un petit peu plus pointues. Quelles sont les définitions qui caractérisent le mieux les Gaulois ? Ce sont de bons artisans ? Bon, une petite part de sondés répondent oui. Beaucoup répondent non. Et beaucoup ne savent pas. Parce qu'on sent le piège quand même. Ce sont des agriculteurs ? Non. Pour près de 50% des sondés et à peine 15% répondent que les Gaulois sont de bons agriculteurs. Ce sont des guerriers disciplinés ? Oui. Bon. Ils aiment la chasse et la guerre ? Oui. sont indisciplinés. Ce sont les guerriers, oui. Disciplinés, non. Puisque chacun a lu Astérix et chacun sait que les Gaulois ne sont pas disciplinés. Excusez-moi, j'ai des accès de daltonisme à cette heure avancée. Donc le rouge et le vert, je les confonds. Donc, ils obéissent à des druides? Non. Petite minorité, en grande majorité, oui. Donc les Gaulois, par crainte, par terreur superstitieuse, obéissent à des druides. Ils ont un système politique commun? Alors là, non. Il ne faut pas pousser, tout de même. 65% des sondés répondent non. Ils sont civilisés, et bien là, ça résume tout ce qui précède. Non, écrasante majorité de non. On est à 58% de non, pratiquement, et à peine 10% de oui. Voilà, tout est dit. Alors, il ne faut pas s'étonner d'observer que dans des manuels scolaires plus récents, comme celui-ci, c'est une gravure à l'attention des écoles, qui date, elle, du XXe siècle, non pas de la fin du XIXe siècle, on représente encore les Gaulois sous cette forme. Alors une forme qui est légèrement plus évoluée que la présentation qui en est faite dans le petit Lavis, c'est-à-dire que ces Gaulois cultivent le sol. On voit ici, ce sont des agriculteurs, leurs maisons sont construites pour une part sur des lacs, sur des palafites, sur des pilotis. Les maisons que l'on trouve au premier plan sont nichées dans la forêt, les arbres sont là pour le rappeler, et elles ressemblent, elles ont toute l'allure de cases africaines. La fumée effectivement sort par un trou pratiqué dans le toit, elle pique les yeux bien entendu. Et ces Gaulois mangent à terre au milieu des animaux domestiques, des chiens, des porcs, une marmite, des poules. Voilà, donc une vision qui est certes un petit peu plus évoluée que celle qui est donnée dans le Lavis, mais guère plus, puisqu'on a affaire à des populations qui émergent à peine d'un fond préhistorique, proto-historique, très ancien, et en tout cas des populations très éloignées de la civilisation telle qu'on peut l'apercevoir à Rome ou dans les villes gauloises postérieures à la conquête romaine. Pour étudier ce que sont les Gaulois véritablement aujourd'hui, leur quotidien, leur mode de vie, il faut d'abord s'intéresser à leur cadre de vie. C'est ce qu'on va examiner en premier recours, le cadre de vie des Gaulois qui est présenté dans l'exposition au travers des méthodes de l'archéologie qui permettent de restituer ce cadre de vie. La première chose, c'est que la Gaule de Lavis, ou la Gaule des manuels scolaires, ou la Gaule d'Astérix, est présentée comme une Gaule couverte de forêts qui, évidemment, conditionne les modes de vie. Dès lors qu'on vit dans la forêt, on vit de la chasse, de la cueillette, de la pêche éventuellement, mais non pas de l'agriculture ou de l'élevage. Alors ça, c'est un cliché qui remonte très loin, puisque dans l'Antiquité, on distingue deux Gaules. La Gaule narbonnaise ou transalpine narbonnaise, qui est peuplée de Romains en toge, ce qu'on appelle la Gallia togata, en bas de l'image, et en haut, la Gallia comata, la Gaule chevelue, alors pas forcément couverte de Gaulois hirsutes, à la chevelure longue, à la barbe longue, comme dans le Lavis, mais en tout cas couverte de forêts, hérissée de forêts. Et donc cette vision d'une Gaule hérissée de forêts, vous le savez, alors là je ne veux pas trop couper l'herbe sous les pieds de mon collègue François Malrin qui vous présentera une conférence dans quelques semaines qui s'intitule « Les Gaulois façonneurs de paysages ». Donc il vous l'expliquera très en détail. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est que l'étude des pollens, réalisée par des chercheurs de l'INRAP notamment, du CNRS, de l'université, ici à Lyon, puisque c'est la ville où j'enseigne, et c'est l'une de mes étudiantes, Catherine Latour-Argan, qui a réalisé ce petit diagramme, eh bien les pollens permettent de répondre « oui ». Ou non à la question « est-ce que la Gaule était couverte de forêts ?» Les pollens répondent « non, très clairement non ». Alors ce petit diagramme semble un petit peu compliqué. En réalité, on ne classe que trois types de plantes, les plantes herbacées, de prairies, les arbres, la forêt et les cultures. Céréales cultivées, légumineuses cultivées. Et ce que l'on observe, si l'on part du néolithique, du 4e millénaire avant notre ère jusqu'à l'époque moderne, c'est qu'effectivement la forêt est très présente aux origines, ce qui est assez logique. Mais dès le néolithique, elle n'occupe plus qu'un quart. Que trois quarts du faciès. Et un quart est déjà constitué de prairies, d'espaces ouverts. Et petit à petit, la prairie va gagner sur la forêt avec les cultures qui commencent à se densifier à partir du premier âge du fer, à partir des années 700-600 avant notre ère. Et à la fin de l'époque gauloise, et c'est vraiment l'un des enseignements majeurs de ce graphique, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la forêt n'existe pratiquement plus à Lyon, en région lyonnaise. Il faut la chercher. On peut même affirmer que la forêt est moins présente qu'aujourd'hui. C'est quand même un comble. C'est-à-dire que les plantes de prairies et les plantes cultivées, les pollens de plantes de prairies cultivées, sont plus nombreux que les pollens de plantes d'arbres forestiers. Et il faut attendre la fin de l'Antiquité, la fin de l'époque romaine, pour voir la forêt reprendre un petit peu ses droits, après la chute de l'Empire romain, pour voir la forêt reprendre ses droits au Moyen-Âge, à l'époque moderne. Et donc, c'est tout à fait étonnant. Donc, de Gaule couverte de forêt, eh bien, il n'y en a pas. Chaque fois que l'on réalise ce type d'étude, on se rend compte que la Gaule n'est pas couverte de forêt, mais couverte de cultures et de prairies. Et ici, vous avez une aquarelle qui représente une célèbre ville du Morvan, l'oppidum de Bibracte, du Mont Beuvray. Et ça, c'est l'image du Mont Beuvray dans l'Antiquité. Et voici l'image correspondante aujourd'hui. Ça illustre bien ce que je vous montrais. Des forêts, il n'y en a plus aujourd'hui qu'à l'époque. Alors voici comment il faut imaginer un paysage en Gaule du Nord, en Gaule centrale, à l'époque de Jules César par exemple. C'est un paysage très ouvert avec des petites forêts, des bosquets, des allées plantées d'arbres au bord des chemins, des routes, mais une Gaule quand même majoritairement couverte de terrains cultivés et mis en prairie pour l'élevage. On a vu ce qu'il en était des pollens. Une autre technique qui est présentée dans l'exposition, c'est la photographie aérienne. La photographie aérienne qui permet de repérer dans le sous-sol la trace de vestiges anciens enfouis. Alors, des murs romains, par exemple, là où les herbes poussent moins bien parce que les murs empêchent, bloquent la croissance des végétaux. Et inversement, là où des fossés, des fosses sont présentes, eh bien, la végétation pousse mieux qu'ailleurs et crée des traînées vertes sombres dans les champs qui se voient très bien en photographie aérienne. Et cette technique a permis de repérer des fermes gauloises caractéristiques, des fermes gauloises qui ont été repérées dès les années 1970 par Roger Agache, qui nous a malheureusement quittés il y a peu et qui a mis en évidence des centaines et des centaines de ces fermes, de ces établissements ruraux gaulois, ce qui a été une véritable révolution à l'époque puisqu'on n'imaginait pas que le paysage, que la campagne était aussi exploitée. Le développement de l'archéologie préventive à partir des années 1980, avec la naissance d'une association chargée de réaliser des fouilles en France, l'AFAN, qui est devenue depuis l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, eh bien, les découvertes de fermes gauloises se sont multipliées. Vous avez sous les yeux une carte qui montre que ces fermes, on en compte plus de 500 aujourd'hui sur le territoire national. Elles sont un petit peu curieusement réparties, entraînées. En fait, l'explication en est simple, c'est que les découvertes suivent le tracé des autoroutes, évidemment, puisque les archéologues interviennent là où des routes sont construites, des voies ferrées, et on trouve des fermes. Et il faut imaginer que dans ces régions-là, eh bien, la densité de fermes est la même partout. Donc ce sont simplement des échantillons, des tranchées faites dans le paysage, mais ça nous donne une idée de la densité du peuplement de la Gaule à cette époque-là, dont la population est estimée à quelques millions. Alors les spécialistes débattent de savoir si c'est 5, 6 millions, voire davantage, peut-être 10, 15 millions. Les chiffres varient selon les auteurs. Alors voici l'une de ces petites fermes caractéristiques, restituées sous une forme d'aquarelle, avec ses enclos palissadés, dont François Malrin vous parlera plus longuement d'ici quelques semaines, des bâtiments. Et voici le plan, un plan de fouille, un exemple de plan de fouille à partir duquel on réalise ce type de dessin. Ici, une ferme gauloise vue en photo aérienne, après décapage et fouille par les archéologues. Alors, ce n'est pas très spectaculaire sur le terrain, ce sont des trous. Et là, vous avez toute une animation dans le cadre de l'exposition qui explique comment, à partir de trous, on arrive à restituer les bâtiments. On en reparlera. Ici, une autre restitution de ferme gauloise, cette fois-ci à Pôle, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et puis ici, une évocation actuelle d'ambiance de ferme gauloise dans un parc archéologique. Et pour ce qui est de l'environnement de ces fermes, et ceci vous sera exposé également par François Malrin d'ici quelques semaines, eh bien, il faut imaginer des cultures, des prairies, dans lesquelles, alors des prairies, des cultures qui sont façonnées par l'homme, effectivement, les cultures supposent des labours, et on retrouve effectivement dans les fouilles des outils, des socs d'arrière qui servaient à labourer les champs. On retrouve des outils qui servaient à moissonner, bien entendu, de grandes faux, des faucilles. Et puis, ça nous permet... On retrouve également ce qu'on appelle des carporestes, des restes végétaux, des graines notamment conservées dans les milieux humides qui nous permettent de restituer les espèces cultivées, du blé amidonier par exemple. Là encore, tout cela vous sera présenté un petit peu plus en détail. Ce blé, il est conservé dans des granges, par exemple ici à Pôle, de véritables bâtiments de stockage, des granges assez imposantes, ou alors dans des petits greniers sur poteaux caractéristiques qui laissent 4 trous. Donc ce sont des petits greniers sur pilotis qui visaient à isoler, qui étaient destinés à isoler les récoltes et les moissons de l'humidité du sol pour éviter que les récoltes ne pourrissent. Et puis des petits rongeurs, d'où ce que vous avez ici, à savoir des petites dallettes de schiste ou d'ardoise qui isolaient les pilotis et qui empêchaient les rongeurs de pénétrer à l'intérieur du grenier. Un autre mode de stockage très utilisé dans les fermes, ce sont les silos enterrés. Alors, qui ont un usage tout à fait différent, puisque ces silos, ils sont creusés dans le sol, et l'objectif est de leur ménager une ouverture la moins large possible pour que l'air, l'oxygène ne pénètre pas. On remplit ces silos de grains jusqu'à la gueule, à ras-bord. On dispose un couvercle qu'on scelle avec une chape d'argile. Le couvercle est lutté. Et donc, il n'y a pratiquement pas d'air à l'intérieur. L'air, l'oxygène est très rapidement consommé par la fermentation. Et ensuite, les récoltes ne fermentent plus. Elles peuvent être conservées pendant des mois, voire même des années sous cette forme-là. L'inconvénient, c'est que dès lors que vous ouvrez le silo, eh bien, il faut tout consommer. Et certains silos contiennent des centaines de kilos de graines. Donc, c'est un mode de stockage tout à fait différent. Dans un petit grenier, vous pouvez aller puiser tous les jours. Et on commence à aborder des questions relatives à la vie quotidienne. Alors, voici le principe du silo, qui sert effectivement, comme l'indique cette petite animation, de poubelle, le plus souvent de dépotoir après usage. Donc, on y retrouve souvent des céramiques et des ossements animaux consommés dans le cadre de l'alimentation. Ici, un bâtiment de ferme gauloise, un bâtiment d'habitation. Alors, vous voyez, il s'agit vraiment de fossés, de tranchées, de trous avec des pièces qui se dessinent. On voit quelque chose d'assez organisé. Alors, première surprise, ces maisons ne sont pas rondes. Il ne s'agit pas de huttes, de cases, mais de maisons carrées, rectangulaires. On verra qu'elles sont assez bien construites. Et voici comment il faut se les représenter. On a bien affaire à des chaumières qui, finalement, ne diffèrent pas énormément de ce qu'on a vu tout à l'heure. À proximité des maisons, qui sont dédiés à l'habitation des hommes, on trouve bien entendu du bétail, et ce bétail est retrouvé dans les fouilles, on en verra quelques restes tout à l'heure. Alors, il s'agit de bétail domestique, bien entendu, pas de loups, pas de sangliers, pas de dinosaures, pas de mammouths, mais des bœufs, des bovidés, des moutons, des caprinés, des porcs, des suidés, etc., qui correspondent à l'alimentation, de l'élevage, alors des animaux qui sont utilisés pour le trait, pour les activités agricoles, mais aussi comme réserve de viande alimentaire. Et ce qui caractérise ces animaux, c'est que ce sont des espèces tout à fait petites. Là encore, l'atelier dédié à l'archéozoologie, à la science archéozoologique, vous montre comment, à partir d'ossements de bœuf, on arrive à restituer un animal et puis la viande qu'il y a autour. Et cet atelier illustre bien que ces animaux sont beaucoup plus petits que les animaux actuels, donc ils livrent moins de viande, évidemment. Mais ce sont des animaux, comme on peut les trouver dans n'importe quel cours de ferme, ou n'importe quel clos de ferme actuel. Voilà pour les modes de vie. Alors, tout cela pour vous dire que le quotidien à l'époque gauloise, c'est essentiellement ce que je viens de vous présenter. On peut estimer, sans trop de risque de se tromper, que la population gauloise, à l'époque de Jules César, au 1er siècle avant notre ère, réside à 90%, et même plutôt 95 ou 98% à la campagne. Donc la conférence pourrait s'arrêter là. Parce que le quotidien des Gaulois, vous, moi, monsieur tout le monde, c'est cela. Mais évidemment, comme tout corps social, il y a des écarts très très importants entre les populations, je dirais, appartenant aux classes inférieures ou moyennes, et puis les classes de population dites supérieures, plus fortunées, mieux nées, qui, elles, adoptent des modes de vie tout à fait différents. Donc pour aborder la question du quotidien à l'époque gauloise, il faut bien différencier entre ces différentes couches de population et en passer par un petit tableau de la société à l'époque gauloise, ce qu'on peut qualifier d'environnement social. Et là, vous allez voir, les choses sont assez contrastées. Alors, revenons au texte ancien cette fois-ci, non pas au texte du Lavis. Jules César est pratiquement le seul auteur qui a combattu, bien entendu, les Gaulois de 58 à 51 avant notre ère, et le seul auteur à nous donner une description un petit peu objective et détaillée de la société gauloise, puisque les autres textes sont beaucoup plus lapidaires sur la question. Et dans son fameux livre 6 de la guerre des Gaules, du De Bello, des Commentari De Bello Gallico, 6-15, il nous dit, ouvrez les guillemets, « Dans toute la Gaule, il y a deux classes d'hommes importantes. L'une est celle des druides, l'autre celle des chevaliers. Les druides s'occupent des affaires religieuses. Un grand nombre de jeunes viennent auprès d'eux pour s'instruire. Si un meurtre a été commis, s'il y a une dispute au sujet d'un héritage ou des limites d'un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Les druides ne vont pas à la guerre et ne payent pas d'impôts. Les chevaliers participent tous à la guerre. Chacun, en fonction de sa richesse, rassemble autour de lui un nombre plus ou moins grand de clients. C'est à cela que l'on connaît sa puissance et sa richesse. Les gens du peuple sont presque des esclaves. On ne leur demande jamais leur avis. Quand ils sont écrasés par les dettes ou par les impôts, ils se mettent au service des nobles. » Alors, c'est un tableau assez court, évidemment, de la société gauloise, qui nous laisse un petit peu sur notre faim. Et en réalité, il comporte beaucoup d'informations. Deux classes d'hommes importantes, César, d'emblée, nous dit, la société gauloise est dominée par deux classes de personnages importants. Les uns ont des attributions religieuses, des fonctions religieuses, les autres relèvent plutôt de la classe militaire, guerrière. Bon, l'alliance éternelle du sabre et du coupillon. Ensuite, que nous dit César? C'est que les jeunes bénéficient d'une instruction. Ce qui va totalement à l'encontre de ce que nous dit le Petit Lavis. Les petits Gaulois n'allaient pas à l'école. César, 2000 ans avant le Petit Lavis, nous dit le contraire. Bon. Ensuite, on parle des mots qui sont tout à fait curieux s'agissant des Gaulois. Bon, des meurtres, il y en a toujours eu, admettons. Mais on parle d'héritage, de limite d'un terrain. On parle de jugement, d'amende, d'impôt. Autant de concepts qui sont assez, finalement, modernes, assez évolués pour une société considérée comme primitive. Et ensuite, dernière information importante, il y a des liens de dépendance très forts entre les castes importantes, les les castes privilégiées, et puis le reste du peuple, qui sont considérés presque comme des... Les gens du peuple sont presque considérés comme des esclaves, des clients en tout cas, qui dépendent de personnes plus importantes. Alors au passage, si César nous parle d'esclaves, est-ce qu'il s'agit d'esclaves romains qu'il connaît à Rome ou d'esclaves gaulois ? Là, c'est une question qu'on peut se poser. Donc beaucoup d'informations dans ce texte qui nous laissent un peu sur notre faim. En fait, il faut en passer là encore par l'archéologie pour essayer d'en savoir un petit peu plus. En réalité, si l'on prend le texte de César, à différents passages, on ne va pas tous les passer en revue, et les données de l'archéologie, des inscriptions et des monnaies notamment, on se rend compte que la société gauloise, à l'époque de la guerre des Gaules, au milieu du 1er siècle avant notre ère, est beaucoup plus compliquée que cela. Je ne vais pas vous décrire le schéma que vous avez sous les yeux, mais ce sont des magistratures, donc des charges politiques et religieuses citées par César, qui sont assez compliquées, qu'on retrouve à la fois sur des inscriptions, soit des graffitis sur les vases, des inscriptions d'époque romaine, soit les monnaies, qui sont des magistratures assez compliquées, qui relèvent à la fois du pouvoir politique, religieux. Vous avez des magistrats monétaires chargés de frapper monnaie. Donc la société gauloise, des sénats dont nous parle César, de véritables sénats, donc les nobles se réunissent non pas dans des clairières, comme on l'imaginait dans les manuels scolaires, mais dans les sénats. Et donc ça pose d'emblée la question, mais à quoi pouvait ressembler cette société concrètement ? On imagine mal des institutions aussi complexes dans le tableau que nous dresse Lavis, par exemple, au milieu de la forêt, avec ses cases sur pilotis, quelque chose ne cadre pas. Donc là, l'archéologie nous oblige vraiment à creuser un peu le problème pour savoir vraiment à quoi pourrait ressembler ce monde gaulois. On imagine mal également une société aussi complexe uniquement à la campagne, avec des fermes dispersées dans la campagne. Donc ça nous oblige à aller un peu plus loin. Je laisse entièrement de côté la question des druides, qui sera abordée par Jean-Louis Bruneau et Jeannick Ricard, qui traiteront successivement de la guerre, de la société et de la religion gauloise. Donc je laisse complètement cette question de côté. Vous l'aborderez dans le cadre d'une autre conférence. Elle est un petit peu extérieure du sujet. Au sujet. Intéressons-nous en revanche à la caste des chevaliers, qui sont présentés comme l'une des castes les plus puissantes en Gaule. Les chevaliers sont par définition des cavaliers, des guerriers à cheval. Et ces guerriers gaulois, vous en avez une restitution assez fidèle sous les yeux, c'est comme ça qu'il faut se les représenter. C'est une aquarelle assez réaliste. On est loin du guerrier hirsute, du viking qui peuple les péplums, la bande dessinée aujourd'hui encore, même pour des films extrêmement récents. Je pense au Vercingétorix de Sinistre Mémoire qui est sorti il y a quelques années déjà. Heureusement, il est déjà tombé dans l'oubli. Mais ici, vous avez donc des guerriers gaulois tels qu'il faut se les représenter à l'époque de César, des guerriers très virs de la région du Luxembourg actuel et de la ville de Trèves actuelle, qui ont l'air un petit peu plus civilisés que le tableau qui nous était brossé tout à l'heure. Alors ces guerriers gaulois, ces chevaliers gaulois, on en cerne l'existence essentiellement à travers des découvertes de tombes. Ici vous avez un exemple, des tombes sous tertre, des tombes en tertre, des tumuli, découverts dans la région lyonnaise, à l'est de Lyon, sur le site de Verna, près de Hyères-sur-Ambie, en Isère. Et dans ces tumulus, on a retrouvé tout un bric-à-brac d'objets métalliques. Tout à fait étonnant, vous avez par exemple des pièces de char, des pièces de harnachement qui démontrent qu'on a bien affaire à des cavaliers, des guerriers à cheval, des pièces de char. Alors le cheval, c'est important parce que c'est non seulement une manière de faire la guerre, le cheval, mais c'est aussi une marque de statut. Pourquoi ? Parce qu'un cheval coûte cher. Un cheval coûte très cher à l'achat et coûte surtout très cher à l'entretien. Il faut un palefrenier, il faut du fourrage. Et donc ça désigne déjà, ça implique un niveau de vie assez important. Et à Rome même, à l'époque républicaine, on désigne effectivement les chevaliers, des équites, César utilise le même terme, des personnages qui reçoivent un cheval de l'État ou qui en disposent eux-mêmes et donc qui ont les moyens, dans un système censitaire, de s'acheter un cheval et de l'entretenir et de combattre avec. Très bien. Vous avez des armes qui prouvent qu'on a bien affaire à des guerriers et tout un bric-à-brac, des casseroles, de la vaisselle, des cruches en bronze qui ne sont pas des ustensiles culinaires quotidiens utilisés pour la cuisine quotidienne, mais en fait des ustensiles à banquet utilisés dans le cadre du banquet. Et nous reparlerons du banquet dans un instant. Une autre tombe fouillée cette fois-ci au Luxembourg, à Clémency, en territoire Trévire. Et voici la tombe à l'état de fouille, ce n'est pas très parlant, et voici la restitution qui en a été faite au musée du Luxembourg. Donc c'est une tombe gauloise riche dans laquelle on trouve de la vaisselle, cette fois-ci utilisée pour la cuisine en partie, de la vaisselle culinaire, des vases à boire, un grill, utilisé là encore pour la cuisine, des vases particuliers qui sont des amphores utilisés pour le service du vin, ici, à gauche de l'image, et ici deux carcasses de ce qui paraît être un sanglier, en fait ce sont des porcs domestiques. Bien entendu, ce sont les tombes les plus riches. Il existe des tombes beaucoup plus modestes, ici un exemple de tombe fouillée en Auvergne, près de Clermont-Ferrand, dans laquelle, alors déjà, pas de grande chambre funéraire qui reconstruit une salle entière sous un tertre, mais simplement une tombe en terre qui ressemble beaucoup plus à nos tombes actuelles, parfois avec un cercueil en bois autour. Et là encore, je crois que vous avez une conférence prévue sur le monde des morts d'ici quelques semaines, donc je n'ai pas trop en parler. Et cette tombe est garnie seulement de quelques vases, un petit vase à boire à proximité de la tête. On voit bien que le défunt est beaucoup moins fortuné, beaucoup moins important, beaucoup moins riche que le précédent. Voici comment se présentent ces dépôts funéraires. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité l'exposition, il y a une toute dernière section qu'il ne faut pas manquer, qui essaye d'illustrer, de montrer les différences entre ces différentes tombes, selon qu'on est très riche, très fortuné, qu'on appartient à la classe des équitaises, des chevaliers, ou aux classes moyennes, commerçantes, artisans, ou alors encore aux classes inférieures. Et au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, eh bien les offrandes, les objets déposés dans la tombe sont de moins en moins nombreux. Au passage, notez que l'archéologie permet de découvrir certaines choses, les vases, les ossements animaux, mais pas d'autres, puisque de bien souvent des légumes, des offrandes périssables, des végétaux, il ne reste plus rien. Les tissus ne sont pas conservés, sauf parfois dans la corrosion des objets, dans la rouille laissée autour des couteaux en fer, par exemple, ou des épées en fer. Alors ici, un autre exemple, pour les populations vraiment situées tout en bas de l'échelle sociale, certaines reçoivent des sépultures un peu particulières, c'est-à-dire qu'elles sont simplement jetées dans des fosses, jetées dans des fossés, en vrac pratiquement, qui ne sont pas des fosses communes, mais ils sont jetés dans des silos, par exemple, dans des fosses dépotoirs. Et donc, ces populations-là bénéficient d'encore moins d'égards. Et l'on connaît, par exemple, ici à Martigues, près de Martigues, dans le sud, des tombes qui sont encore plus explicites, puisque la personne inhumée ici, eh bien, comporte des entraves en fer, c'est-à-dire des menottes, qui la désigne clairement comme soit alors comme un condamné de droit commun qui aurait conservé ses fers, mais plus vraisemblablement comme un ou une esclave, donc un personnage qui a vécu en servitude et qui a été inhumé là avec quelques égards, et c'est l'une des tombes qui est présentée dans le cadre de l'exposition. Donc vous voyez toute l'échelle sociale perceptible au travers des tombes, des objets que l'on retrouve bien entendu ailleurs en Gaule. Ces entraves en fer, on les retrouve par exemple dans le cours de la Saône et parfois sur des sites d'habitat qui tendent à démontrer que les Gaulois pratiquaient bel et bien l'esclavage. Il y a tout un débat qui entoure ce problème. Est-ce que les Gaulois étaient esclavagistes comme les Romains? Est-ce que l'esclavagisme est consubstantiel de la civilisation, comme on pourrait le penser? Voilà, c'est un débat qui n'est pas tranché, mais il semblerait bien malgré tout que les Gaulois pratiquaient l'esclavage. Intéressons-nous maintenant un petit peu à l'apparence physique de ces Gaulois, au travers de quelques textes que je cite brièvement, du texte de Diodore de Sicile qui cite souvent des sources plus anciennes, Posidonios d'Apamée notamment, et qui nous affirme que les Gaulois méprisent la mort au point d'entrer dans la lutte nus avec un simple caleçon. Bon, voilà une description des Gaulois qui n'est pas très valorisante. Plus loin, il nous dit que les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche, leurs cheveux sont non seulement blonds par nature, mais ils s'appliquent encore à les éclaircir en les lavant continuellement à l'eau de chaux. Certains se rasent la barbe, d'autres la laissent pousser modérément. Les nobles tiennent les joues nues, mais portent des moustaches longues et pendantes au point qu'elles leur couvrent la bouche. Là encore, ce texte, bon, c'est évidemment le texte qui a inspiré la vision de Lavis, qui nous dit que les Gaulois avaient les cheveux longs et qu'ils portent des moustaches longues. Bon, très bien, mais le texte dit le contraire. Il dit que certains se rasent la barbe, si certains se la laissent pousser modérément, ou immodérément, puisque la moustache couvre la bouche, mais certains se rasent la barbe. On se lave les cheveux. Donc là, on a déjà une vision un petit peu contradictoire, et les auteurs, je dirais, scolaires ou les historiens du XIXe siècle n'ont choisi de retenir que l'image du Gaulois hirsute, du Viking, à peine sorti de la préhistoire. Et ensuite, vous avez une autre description dans Virgile. D'or sont leurs cheveux, d'or est leurs vêtements, leur cou blanc comme le lait, encerclé d'un collier d'or. Alors passons sur l'apparence physique, sur la blancheur des Gaulois. C'est un critère ethnique qui est présenté de manière tout à fait raciste. Le racisme dans l'Antiquité romaine, gréco-romaine, ne s'applique absolument pas aux populations africaines ou asiatiques, mais bien aux populations du Nord, les Celtes et les Germains, qui sont méprisés pour leur peau blanche qui leur fait ressembler à du lait. Alors, l'apparence des Gaulois, c'est intéressant. On dispose de représentations de Gaulois dans le célèbre groupe des Gaulois mourants, le groupe Ludovisi, qui est exposé au musée du Capitole, conservé au musée du Capitole à Rome. On a des images de Gaulois mourants, nus, effectivement, qui combattent nus, les armes posées à côté d'eux. Ils sont mourants au terme de la bataille, soit ils se suicident, soit ils sont blessés à mort. Et on a l'image d'un Gaulois, ici à gauche, qui finalement cadre assez bien avec la description de Diodore. Il combat nu, avec des torques en or, des colliers d'or. Il porte une moustache, qui est certes un petit peu longue, mais ce n'est pas non plus la moustache d'Astérix, elle est plus courte que celle de José Bové, en tout cas. Et ici, vous avez des cheveux taillés en brosse, qui semblent effectivement, qui presque impliquaient une sorte de gel, en tout cas un additif qui leur donne cette forme tout à fait particulière, qui ne correspond absolument pas à la manière de représenter les cheveux dans l'Antiquité classique. Donc ces Gaulois, on dirait qu'ils mettent du gel pour se donner une apparence effrayante dans le cadre du combat. Et vous avez à droite une tête, alors non pas gauloise, mais celtique, découverte en République tchèque il y a déjà plusieurs décennies, et qui représente un Gaulois vu par lui-même, un Celte plutôt vu par lui-même, et l'on retrouve exactement les mêmes caractères. Vous avez une moustache courte, et puis des cheveux qui ont l'air dressés sur la tête, et surtout le torque autour du cou. Donc là, vous avez deux représentations intéressantes. Un Celte, un guerrier Celte, Galate, vu par un sculpteur grec, et un guerrier Celte, de Celtique orientale, en Europe centrale, vu par lui-même ou par un artisan indigène. Et ouais, vous voyez que ce n'est pas si différent. Vous avez ici la monnaie frappée par un célèbre chef gaulois, puisqu'on est à l'époque de César, en 52 avant notre ère. Son nom est inscrit sur la monnaie, Vercingétorix. Et ce chef gaulois, apparemment, est représenté sous la forme d'un jeune homme, avec des bouclettes, une tête presque de jeune homme grec ou gréco-romain. Alors, on peut s'interroger, savoir est-ce qu'il s'agit véritablement d'un portrait de Vercingétorix, d'un autoportrait, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une tête de divinité, en l'occurrence Apollon. Et pourquoi pas les deux, Vercingétorix, qui s'identifie à une divinité majeure du panthéon Apollon. Tout est possible. Toujours est-il que voilà la représentation de Gaulois par eux-mêmes, et puis ici, la représentation du même personnage sur une monnaie romaine frappée en 46 avant notre ère, au moment du triomphe, à l'époque du triomphe de César, qui a vu la mort de Vercingétorix emprisonné quelques années à la Mamertine après la défaite d'Adelphia. Et là, le Gaulois, alors qu'il s'agisse de lui ou non, là encore, l'identification est discutée, est représenté d'une manière tout à fait différente, avec les cheveux beaucoup plus longs. On retrouve les cheveux dressés, un petit peu en arrière, qui forment des vaguelettes à l'arrière, et puis surtout une barbe et une moustache. On n'a pas à faire un personnage glabre, un personnage émacié. On a quand même l'impression que ce personnage a passé quelques années en prison et qu'il n'a pas mangé beaucoup. Toujours est-il que sa barbe est relativement soignée. Il ne s'agit pas d'une barbe de viking qui lui tombe au genou, mais d'une coupe finalement assez soignée. Alors, finalement, que croire ? Qui croire ? Qu'est-ce qu'il faut garder du texte de Diodore ? Est-ce que les Gaulois se laissent pousser la moustache, les cheveux ou non ? L'archéologie permet de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que les fouilles archéologiques, l'objet que vous avez ici provient de nos fouilles de Coran, on y viendra tout à l'heure, c'est une paire de ciseaux, de force plutôt, qui servait à différents usages. On peut l'utiliser pour tailler la crinière des chevaux, par exemple. On peut l'utiliser pour couper des tissus, des textiles, des draps. Mais on peut aussi et surtout l'utiliser pour la coiffure et se raser la moustache. Ce qu'on découvre également dans les fouilles de cette époque, ce sont des rasoirs qui, eux, ne peuvent servir qu'à se raser la barbe. Ce que l'on trouve également dans les fouilles, ce sont des petits objets, des petits ustensiles de toilette. Ces objets ont été découverts sur le site de l'oppidum de Coran. Et vous avez différentes choses. Vous avez des toutes petites cuillères minuscules dont la cupule fait à peine quelques millimètres de large, qui sont en fait des cure-oreilles. C'est l'équivalent de nos coton-tiges actuels, à l'époque où le coton n'existe pas, évidemment, et le carton encore moins, et qui servent à se curer l'oreille, à libérer l'oreille du cérumen. En dessous, vous avez une petite pince à épiler, qui sert à s'épiler. Elle ne sert pas à autre chose. Ces pinces servent encore aujourd'hui. Et donc, ces pinces à épiler, évidemment, impliquent qu'on s'épile au moins le visage ou certaines parties du corps. Et enfin, à droite, ce qui est encore plus étonnant, un petit peigne en os qui sert à se peigner. Donc, ces Gaulois soignaient leur apparence, visiblement, leur apparence physique. Et de la description de Diodore, il vaut mieux garder l'idée que les riches, les nobles, soignent leur apparence et les populations plus modestes, paysannes, les esclaves, les gens de basse condition, eh bien, font un petit peu moins attention parce qu'ils ont d'autres priorités. Passons maintenant aux vêtements des Gaulois. Diodore de Sicile, toujours lui, nous dit que les Gaulois portent des habits très singuliers, comme des tuniques peintes de toutes sortes de couleurs et des hauts de choses qu'ils appellent braques. Là, ce sont des braies, en l'occurrence, des pantalons. Par-dessus leur tunique, ils mettent une casade d'une étoffe rayée ou divisée en petits carreaux, épaisse en hiver et légère en été, et ils l'attachent avec des agrafes. Nulle trace dans le texte de Diodore de Sicile des peaux de bêtes décrites dans l'Avis. C'est étonnant, comme la lecture des textes anciens permet quand même de revisiter un petit peu ces manuels scolaires. On se demande d'où ils tirent ces idées-là, puisque les textes anciens nous disent ne nous touchent pas mot de tout cela. Et on ne peut pas soupçonner les auteurs anciens d'être bienveillants à l'égard des Gaulois, qui sont considérés comme des ennemis irréductibles, d'épouvantables barbares, mais on ne va pas au point de les affubler de peau de mammouth, comme on le fait aujourd'hui dans les films. Bon. Ammien Marcellin, autre auteur, nous dit que tous les Gaulois sont d'une grande propreté et d'une élégance soignée. Et dans ces régions, surtout chez les Aquitains, la région, le sud-ouest actuel, on ne pourra jamais voir ni homme ni femme, si pauvre soit-il, couvert de haillons malpropres comme ailleurs. Bon, voilà une information intéressante. Alors passons aux vêtements. Les vêtements gaulois ne sont pratiquement pas connus puisque les tissus ne se conservent pas. Mais je vous ai mis malgré tout une découverte tout à fait extraordinaire qui a été réalisée, effectuée au début du XXe siècle, près de Clermont-Ferrand, au pied de l'oppidum de Coran, sur le site des Martres de Vers, la commune actuelle des Martres de Vers. Et c'est une nécropole d'époque romaine et gauloise qui a livré des tombes très anciennes de l'époque qui date du règne d'Auguste. Changement d'ère, donc on est entre 10 avant Jésus-Christ et 10 après Jésus-Christ, quelques décennies à peine après la conquête romaine, donc on peut penser que les populations vivent à peu près de la même manière, la romanisation n'a pas encore fait son œuvre, et ces vêtements n'ont effectivement rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Rome ou en Italie à la même époque. Ce sont des vêtements typiquement gaulois, portés par une jeune fille dont le corps a été conservé. Alors pourquoi conservé ? En raison d'émanations de soufre, on est en terrain volcanique et près de sources chaudes, avec des émanations sulfurées qui ont permis la conservation du bois, du cuir, et tout l'attirail de cette jeune fille a été conservé, notamment ses chaussures en cuir et ses vêtements. Alors on retrouve un petit peu ce qui nous était décrit par Diodore, à savoir une grande tunique, des chaussures en cuir et des chausses. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Donc vous avez ici vraisemblablement un vêtement féminin tel qu'en portaient les Gauloises avant la conquête romaine, ou en tout cas à l'époque de la conquête romaine, à l'époque de Jules César et en tout cas à l'époque de Diodore. Ici, des textiles gaulois conservés dans des tourbières du Danemark qui sont très intéressants parce que autant la tunique que vous avez ici, c'est évidemment la tunique d'une personne de basse condition, d'une simple paysanne vraisemblablement, une personne de condition relativement modeste en tout cas, ou classe moyenne, alors que ici vous avez des vêtements un petit peu plus élaborés avec des motifs de carreaux effectivement qui ressemblent un petit peu aux motifs écossais, c'est comme ça que l'on représente volontiers les Gaulois, en tout cas des textiles colorés qui utilisent des teintures végétales jaunes, rouges, vertes, ce sont les couleurs les plus fréquentes, et ici des textiles encore plus élaborés de couleur bleue. Alors comment, finalement, il faut se représenter les vêtements gaulois ? Les vêtements gaulois, ce sont des vêtements simples pour la vie quotidienne, avec en premier une tunique, généralement serrée à la taille par une ceinture en tissu, des choses qui permettent de tenir chaud, alors soit des braies qui remontent juste en haut, de véritables pantalons ou des sortes de bas, alors soit en laine, soit en lin tissé, tous ces vêtements sont tissés, pas de peau animale, pas de peau de bête. Bien souvent, pour résister au froid, un manteau qu'on appelle un seillon, qui est un grand carré d'étoffe d'une seule pièce qu'on noue autour du corps et qui est souvent assez décoré, fixé avec des petites broches en métal qu'on appelle des fibules, et des manteaux qui sont teints en violet, en rouge sombre, rouge cramoisi, en vert, parfois multicolore avec des motifs de carreaux ou de lignes. Vous avez encore des vêtements vraiment d'usage pour la vie, par exemple pour les travaux des champs, qui sont des manteaux qu'on pourrait comparer à nos pèlerines, des manteaux pourvu d'une capuche qu'on appelle le cuculus. Et ces manteaux sont bien connus à l'époque romaine. On les retrouve représentés à l'époque romaine sur des statues ou sur des reliefs. Et enfin, des chaussures ou des bottines en cuir. C'est à peu près la même chose pour les femmes. À quelques différences près, le vêtement est assez peu différencié. Alors ici, vous avez donc des vêtements un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus élaborés, avec des manteaux de couleur vive teints en bleu, qui est une couleur assez rare, assez difficile à obtenir. Et surtout, ces vêtements sont maintenus par des broches, par des agrafes, dont vous reconnaissez la couleur, elles sont jaunes, et ce sont des agrafes en or. Donc, les personnages que vous avez sous les yeux portent des bijoux en or, leurs vêtements sont retenus par des agrafes en or, et donc, évidemment, ce ne sont pas des choses qui se portent dans toutes les catégories de la population, et ces bijoux sont parfois retrouvés, comme par exemple, sur le site de Coran, en Auvergne. Vous retrouvez ces petites fibules reliées par une chaînette, parce qu'il ne faut pas les perdre, des petits médaillons, petits pendentifs d'oreilles ou de colliers, des bagues en or, donc qui étaient portées, là évidemment, par les couches supérieures de la société, par les aristocrates. Pour les populations plus modestes, les classes moyennes ou les populations de basse condition, on trouve des bijoux beaucoup plus simples qui sont réalisés non pas en or, mais dans un alliage artificiel, fait d'étain et de cuivre qui imite l'or. C'est le bronze. Alors aujourd'hui, ces objets ont une patine verte, mais vous le savez, à l'origine, ils avaient une patine dorée. Et ils avaient l'aspect de l'or. Un petit peu plus terne, mais ils avaient l'aspect de l'or. Simplement, ils s'oxydent bien plus rapidement que l'or. Et ils étaient portés soit au bras pour les bracelets, soit, comme les petits agrafes que vous avez ici en dessous, soit ils maintenaient le vêtement. Ce qu'on trouve également dans les fouilles, ce sont des bijoux en verre, de magnifiques parures en verre. Vous en avez quelques exemples dans le cadre de l'exposition. Et ces parures en verre, elles prennent la forme soit de bracelets en verre fondu. Le verre est importé, les Gaulois ne produisent pas eux-mêmes le verre. Ils importent la matière brute qu'ils colorent eux-mêmes. Ah, le micro revient, ça sera plus agréable pour vous comme pour moi. Donc, ce verre, ils le colorent de couleurs extrêmement chatoyantes, en bleu cobalt, en jaune, en marron, en vert, des teintes, en pourpre parfois, donc des teintes tout à fait étonnantes. Et ce sont ces bijoux qu'on retrouve dans les tombes, notamment les bracelets que vous avez sous les yeux ont été retrouvés entiers dans les tombes. Ce qu'on retrouve, alors ces bracelets étaient portés évidemment au bras, vous avez ici le dessin réalisé par l'une de mes étudiantes, Hélène Duchamp, qui est un dessin qui permet de se faire une idée du port de ces bijoux. Et enfin, des colliers de perles en vert coloré, avec des motifs tout à fait étonnants, des motifs spiralés, des motifs de damier, des motifs qui évoquent un petit peu la peau d'un serpent, la couleur d'un serpent, tout à fait étonnant, couleur tout à fait chatoyante. Voilà donc pour l'apparence de ces Gaulois. Donc on voit qu'il y a une grande différence entre les populations les plus simples, les classes modestes, et puis les classes les plus aisées. Là, on a affaire à des populations de rois, de princes, en tout cas de chevaliers au minimum, qui portent des vêtements de prix et les bijoux qui vont avec. Alors, pour se plonger un petit peu plus en avant, de manière plus approfondie, dans la vie de ces populations, alors non pas modestes, puisque je vous l'ai dit, les populations modestes résident plutôt à la campagne. On a à la campagne, notamment, ce sont les exemples de fermes que je vous ai présentées tout à l'heure, des exemples quand même d'établissements très riches. Il faut savoir que beaucoup de ces nobles gaulois, chevaliers, magistrats, avaient une résidence en ville, mais également à la campagne. Ce sera aussi le cas à l'époque romaine, après la conquête romaine, après la conquête des Gaules. Mais une majorité des classes moyennes et aisées résident à l'époque de César dans les villes. Et donc c'est au travers de la vie urbaine que l'on cerne le mieux le quotidien de ces classes moyennes et aisées. Et on va regarder ça un petit peu dans le détail. Alors la question des villes, c'est une vaste question. Les villes apparaissent déjà, enfin il y a des expériences proto-urbaines qui sont effectuées en Gaule dès le 7e, 6e siècle avant notre ère, avec des agglomérations qui commencent à apparaître à Lyon, à Bourges, sur le Mont-la-Soie, près de Vix en Bourgogne. Et c'est un phénomène qu'on observe particulièrement au 2e et 1er siècle avant notre ère, où de grandes fermes, de grands établissements agricoles se mettent à grandir et à devenir de véritables villages, de véritables agglomérations. Et c'est le cas de la ferme de Paul dans les Côtes d'Armor que je vous présentais tout à l'heure, qui devient à la fin de l'âge du fer une véritable ville, une petite agglomération, même une grande agglomération, constituée, vous le voyez, de plusieurs habitations, de plusieurs dizaines d'habitations. Un autre exemple, c'est le village d'Assy-Romance dans les Ardennes. Vous voyez, les habitations là sont très très nombreuses. Donc on reconnaît ici les blocs des maisons avec des ruelles, des rues qui les séparent, une grande place, des bâtiments ici interprétés comme des temples, un quartier d'artisans, un quartier d'éleveurs. Et cette agglomération prend naissance à la fin du 3e ou début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc très anciennement, déjà près d'un siècle et demi avant la conquête des Gaules par Jules César. Et voici ici une restitution de ce centre-ville avec ces petits temples qui entourent la place, ces bâtiments interprétés comme des temples qui encadrent la place que vous avez ici sous les yeux. Pour étudier la ville, il faut se pencher sur un phénomène qui vous sera peut-être présenté dans les semaines à venir, c'est le phénomène, ce qu'on appelle la civilisation des oppidas. À la fin du 2e siècle avant notre ère, émergent en Gaule des agglomérations beaucoup plus importantes qui sont généralement situées sur des hauteurs, des plateaux surélevés, mais pas toujours, généralement dotées de fortifications, mais pas toujours, en tout cas des agglomérations importantes qui commencent à s'étendre non plus sur quelques milliers de mètres carrés, non plus sur quelques hectares, mais sur des dizaines et voire même parfois des centaines d'hectares. Donc des agglomérations très importantes qui regroupent des populations, non plus des populations de quelques dizaines d'habitants, une de famille, non plus des villages de quelques centaines d'habitants, mais de véritables proto-villes de plusieurs milliers d'habitants. Et sur une ville comme celle que l'on va étudier un peu plus en détail, la ville de Coran, l'oppidum de Coran, il faut se représenter une population de plusieurs milliers d'habitants, 5 000, 10 000, c'est difficile à dire, mais on a déjà affaire à une petite ville. Aujourd'hui, on peut qualifier de ville une agglomération qui regrouperait plus de 3 000 habitants. Alors, la fouille du site que je vais vous présenter se situe à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Clermont-Ferrand, en Gaule centrale, sur le territoire des Arvernes, qui ont donné leur nom à l'Auvergne actuelle. Et c'est un site, le plateau de Coran, donc, qui totalise à peu près une soixantaine d'hectares environ. Et c'est de ces 60 hectares, environ les deux tiers ont été occupés, recouverts par la ville. La ville s'étend au moins sur 40 hectares, peut-être même 50. Mais de ces 40 hectares, on en a fouillé très peu. On en a fouillé en réalité à peine 2 hectares à l'heure actuelle. Donc il reste encore beaucoup de travail, comme vous le voyez ici. En fait, le plan des fouilles, vous l'avez là. Vous avez ici la surface totale du plateau et ici la surface couverte par les fouilles menées depuis 2001 avec mes étudiants de l'Université Lumière Lyon 2 et d'autres étudiants venus d'un peu partout, de France et d'ailleurs. Et donc ces fouilles, vous le voyez, couvrent une toute petite partie de cette ville, mais c'est intéressant parce que les fouilles se sont concentrées sur le centre de la ville. On ne sait pas s'il existe une fortification, les voies d'accès sont inconnues, on ne connaît pas le nécropole, là où les morts sont enterrés, ils ne sont jamais enterrés dans la ville, mais à l'extérieur. Mais on a une idée assez précise de ce à quoi pourrait ressembler le centre-ville. Alors aujourd'hui, il ne reste presque plus rien sur ce plateau. Il est cultivé et il faut aller dans le sous-sol pour pouvoir restituer ceci. Vous avez deux images, il faut imaginer se représenter cette ville comme cela. Donc comme une véritable ville, avec ses monuments, ses quartiers d'habitation, ses quartiers d'artisans, ses places publiques, ses ruelles, etc. Alors, tout d'abord, voici un plan des fouilles qui vous paraîtra peut-être un petit peu moins explicite. Ce qu'il faut distinguer, bien entendu, ce sont les espaces qui sont dédiés à la vie publique, les espaces communautaires, d'une part, et les espaces réservés à l'activité privée, aux activités domestiques, d'autre part. Et là, c'est quelque chose qui concerne très bien sur l'oppidum de Coran, puisque les bâtiments les plus importants, les espaces les plus vastes, sont évidemment identifiés comme des espaces publics, communautaires. Vous avez ici au premier plan un grand sanctuaire que l'on identifie immédiatement sur le plan. Ici, c'est ce grand carré, ce grand bâtiment carré d'une cinquantaine de mètres de côté, qui est le principal sanctuaire de la ville. Voilà, au centre de la ville. En face du sanctuaire s'étend une grande place, que vous avez représentée ici. Et autour de cette place, vous avez des quartiers dédiés à l'artisanat, au commerce, et puis des maisons d'habitation. Alors, lorsqu'on aborde la vie quotidienne des Gaulois au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Jules César, évidemment, il faut bien distinguer la vie quotidienne de la vie des événements exceptionnels qui peuvent ponctuer la vie quotidienne. C'est-à-dire, par exemple, les fêtes religieuses, les cérémonies religieuses, les foires, les marchés, les assemblées politiques, les moments de guerre qui s'opposent aux périodes de paix, par exemple. Je ne vais pas beaucoup traiter de ces questions, puisque la question de la guerre vous sera présentée d'ici quelques semaines. Il sera également question de la religion, en long et en large. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on parle des élites et des classes privilégiées, moyennes ou supérieures, il faut savoir que ces élites, évidemment, une partie de leur quotidien, une partie, alors la proportion est difficile à établir, mais est faite d'événements publics, évidemment. Des sacrifices auxquels on est tenu d'assister, des assemblées politiques auxquelles on doit participer. Donc une partie de leur vie est constituée de leur quotidien est constituée d'événements communautaires qui impliquent une partie de la communauté, voire toute la communauté. Et ça se déroule essentiellement sur le sanctuaire. Voici une image des fouilles prise cet automne, en septembre, qui nous montre à l'arrière-plan le sanctuaire. Alors, au passage, pour ceux d'entre vous que le site intéresserait, on peut désormais le visiter puisque le Conseil général du Puy-de-Dôme a consenti un effort financier important pour mettre en valeur ce qu'on ne voit jamais habituellement, à savoir le sanctuaire gaulois. On peut visiter un certain nombre de sanctuaires d'époque romaine en France, mais des sanctuaires gaulois, c'est impossible parce qu'ils ne sont pas très spectaculaires. Ils sont recouverts généralement après la fin du chantier. En l'occurrence, vous avez une évocation paysagère du sanctuaire gaulois que vous avez ici derrière. Donc c'est un site visitable, gratuitement, bien entendu. Et ici, au premier plan, les fouilles de cette année. Alors ce sanctuaire, le voici, restitué sous la forme d'une maquette. Vous voyez, c'est un bâtiment assez monumental dans lequel les élites, les nobles, les chevaliers et bien entendu les druides, qu'il s'agisse de prêtres ou non, vous en entendrez parler un petit peu plus en détail d'ici quelques semaines. Je suppose que Jean-Louis Bruno s'attardera un petit peu sur cette question. Je ne vais pas trop lui couper l'herbe sous les pieds. En tout cas, ces cérémonies religieuses, elles impliquent des guerriers, puisqu'on retrouve sur le sanctuaire de Coran un grand nombre d'armes. Ici, vous avez un dépôt découvert en 2009 qui est constitué de plusieurs pièces de boucliers, une grande cotte de maille, des fragments d'épée. Alors ici, voici le dépôt en cours de fouille et le dépôt après restauration. Et ce dépôt, vous pouvez le voir dans le cadre de l'exposition. Vous l'avez peut-être déjà vu, il est exposé ici même à la Cité des Sciences, dans le cadre de l'exposition Gaulois, une exposition reversante. Voici la restitution de ce même dépôt sous la forme d'un trophée. Ces armes étaient exposées, elles célèbrent de grandes victoires, de grandes batailles, des grandes victoires remportées par les chefs arvernes, par ces chevaliers, ces guerriers arvernes, contre un autre peuple gaulois. Il s'agit d'armes gauloises et non pas romaines. Et c'est comme ça qu'elles étaient exposées au vu de tous sur les murs du sanctuaire. Ces guerriers, ces aristocrates gaulois se réunissent également sur le sanctuaire pour y sacrifier des animaux, du bétail domestique, des bœufs, des moutons, des chèvres, des porcs. Et on retrouve les crânes de ces animaux sacrifiés en grand nombre dans l'enceinte du sanctuaire. Et l'on retrouve surtout beaucoup de restes animaux issus du sacrifice et ces restes animaux ont été consommés. Comment on peut l'affirmer? C'est parce qu'on retrouve sur les ossements, et c'est ce qui est expliqué dans le cadre de l'exposition, des traces de consommation, c'est-à-dire des traces de raclage à l'aide de couteaux, parfois même des traces de dents, quand on regarde bien, qui prouvent que les gigots, les jambons, ont bel et bien été mangés. Et non pas par les dieux, mais par les hommes qui participent aux cérémonies, dans le cadre de grands banquets. Ces banquets étaient arrosés puisqu'on retrouve énormément d'amphores qui contenaient du vin importé d'Italie. on y reviendra dans un instant. Ces amphores étaient sabrés à coups d'épée, comme on sable champagne depuis le 19e siècle. Donc, elles étaient sabrées à coups d'épée parce que l'amphore, le vin, est un breuvage symbolique. Et donc, la consommation du vin, de même que la consommation de la viande sacrifiée, s'entoure de tout un cérémoniel, de tout un rituel particulier, notamment la décapitation des amphores. Mais je ne m'attarde pas davantage là-dessus. Alors, c'est comme ça qu'il faut se représenter ces cérémonies sur les sanctuaires, ces sacrifices suivis de banquets. Et vous avez ici une évocation réalisée par un auteur de bande dessinée il y a quelques années de banquets sur le sanctuaire de Coran. Je la trouve très colorée et très vivante, contrairement aux images informatiques que je vous montrais tout à l'heure. Ça nous montre un petit peu, ça nous donne une idée de l'animation qui régnait dans le sanctuaire à l'époque des grandes fêtes organisées par ces chefs arvernes. Alors, ces fêtes avaient-elles lieu toutes les semaines, tous les mois, plusieurs fois par an ou tous les jours, c'est très difficile à établir, puisqu'on nettoie évidemment les restes au fur et à mesure. Et ce qu'on trouve, c'est uniquement les vestiges des derniers banquets accomplis dans le sanctuaire. On nettoyait tout cela régulièrement. Alors, c'est intéressant parce que ces banquets sont décrits dans les textes, et vous avez un texte qui remonte à un auteur qui a voyagé en Gaule. On ne sait pas s'il a véritablement voyagé jusqu'en territoire arverne, mais il nous est dit que le Périégète Posidonios d'Apamée, qui est un grand historien de son temps, géographe et historien, qui a vécu au 1er siècle avant notre ère, au début du 1er siècle avant notre ère, jusqu'à l'époque de César à peu près, cet auteur donc nous décrit la richesse de Luerne, qui est père de Bithuit. Donc Luerne, père de Bithuit, c'est un roi arverne qui a régné sur le territoire arverne au 2e siècle avant notre ère. Et on nous dit que pour gagner les suffrages de la multitude, ce roi se faisait transporter sur un char à travers les campagnes et jetait de l'or et de l'argent aux myriades de celtes qui le suivaient. La pratique des pots de vin électoraux, visiblement, ne date pas d'hier. L'information intéressante, c'est de voir que ce roi, eh bien, n'est pas un roi de droit divin, il doit se faire élire. En tout cas, gagner la faveur de la gagner les suffrages de la multitude. C'est déjà une information intéressante. Et ensuite, on nous dit que ce roi gaulois faisait enclore un espace de 12 stades carrés sur lequel il faisait remplir des cuves avec des boissons d'un grand prix et préparait de telles quantités de victuailles que plusieurs jours durant, il était permis à ceux qui voulaient entrer dans l'enceinte de goûter au mets qu'on avait préparé, qui était à disposition sans interruption. Donc là, vous avez une description presque in vivo de ce que je viens vous montrer, c'est-à-dire l'organisation de banquets par des nobles arvernes, des aristocrates gaulois. Et ensuite, vous avez d'autres textes qui nous parlent du fils de Luerne. Ce sont des personnages historiques qui sont décrits dans les textes d'histoire romaine, notamment Bithuit, le fils de ce roi Luerne, qui est lui-même roi en 121 avant notre ère. Il a été battu par deux consuls romains au moment de la conquête de la Gaule transalpine. Il nous dit qu'il vient en somptueux équipage, en ambassade, escorté de gardes richement vêtus et de chiens et de bardes qui chantent ses louanges. Alors là, c'est assez intéressant parce que ce sont des choses qu'on peut retrouver dans le cas du sanctuaire également. On retrouve les chiens. Un grand nombre de carcasses de chiens, de carnassiers, et même des carcasses de loups. On retrouve des crânes de loups, de renards également dans le sanctuaire, donc qui semblent renvoyer à ces escortes d'animaux sauvages, domestiques, qui encadrent ces nobles gaulois, ces nobles arvernes. Et puis, une représentation assez connue, qui est présentée d'ailleurs dans le cadre de l'exposition, qui ne provient pas de Coran, mais c'est une petite statuette découverte sur le site de Pôle, que je vous montrais tout à l'heure, qui représente un héros gaulois ou un aristocrate gaulois qui porte une petite lyre, donc un instrument de musique qui évoque justement ces bardes qui chantent les louanges des aristocrates. Au passage, on voit qu'on a affaire quand même à des populations assez raffinées qui pratiquaient la musique non pas uniquement à l'aide de cornes de bœufs ou de cornes de mammouth, de défense de mammouth, mais à l'aide d'instruments de musique assez sophistiqués. Alors, un dernier petit coup d'œil sur la vie publique, puisque les fouilles de cette année qui ont été menées dans l'angle du sanctuaire, au-delà du sanctuaire, mais dans l'angle du sanctuaire, nous ont permis de découvrir un petit théâtre gallo-romain qui a été présenté ici même dans le cadre d'une petite vidéo que vous pouvez voir, une interview qui a été réalisée à Univers Sciences, qu'on peut voir sur Internet. C'est une découverte tout à fait récente. Donc ce théâtre romain, l'intérêt, on trouve souvent des théâtres romains à proximité des sanctuaires, c'est qu'il recouvre un théâtre plus ancien, en tout cas un lieu de réunion plus ancien, qui lui date de l'époque gauloise. Vous avez ici la scène du théâtre romain, représentée en rouge, et en vert, la scène d'un théâtre d'époque gauloise que nous avons fouillé l'été dernier. Alors, il ne faut pas véritablement parler de théâtre, c'est plutôt un édifice de réunion. C'est plutôt une salle de réunion qu'il faut se représenter un peu comme un conseil municipal, avec quelques lignes de gradins sur lesquelles prenaient place, et bien précisément, ces nobles arvernes, ces chevaliers, peut-être des druides, peut-être des rois, des princes, on ne sait pas. En tout cas, ça nous renvoie au texte de César, qui nous présente des magistratures, il nous parle de Sénat, il nous parle de magistrats monétaires, il nous parle de magistrats chargés de la conduite de la vie politique, militaire, religieuse, etc. Et rétrospectivement, il peut sembler assez curieux d'imaginer ces magistrats assis par terre sur la place ou perchés dans les arbres. Eh bien, les fouilles de Coran nous permettent pour la première fois en France de toucher l'un de ces édifices ou espaces de réunion qui ressemble beaucoup aux espaces de réunion municipaux connus en Grèce, qu'on appelle un bouleutérion, donc des petits hémicycles qui ressemblent à des théâtres bordés de gradins en bois. Donc c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que les nobles arvernes eh bien, prenaient place dans cet hémicycle. Et là, je vous mets, vous avez quelques photos et ici le plan de cet édifice qu'il faut se représenter un petit peu comme ces tout premiers théâtres en bois connus en Gaule romaine. Là, on a vraiment l'ancêtre des théâtres gallo-romains qu'on trouvera en Gaule plus tard. Mais là, vous voyez que la vie publique de ces aristocrates, elle se déroule dans un cadre qui est quand même assez monumental, assez prestigieux. Tout est construit en terre et en bois, mais c'est quand même assez proche de ce qu'on peut connaître en Méditerranée, en Grèce ou à Rome à la même époque. Surtout au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, passons à la vie domestique de ces aristocrates. Voici les maisons qui entourent la grande place de Coran, le sanctuaire, l'hémicycle de réunion de Coran. On trouve des maisons qui sont tout à fait des maisons d'habitation, qui n'ont rien à voir avec des édifices publics. Et ces maisons, elles sont très bien construites. Alors ici, une image des fouilles de cette année. Là encore, vous voyez, avant de passer aux restitutions, je vous mets la restitution d'abord parce que c'est plus parlant, mais il faut d'abord étudier ces milliers de trous de poteaux, de tranchées creusées dans le sol qui marquent l'emprise des bâtiments, le plan des bâtiments. Donc vous avez des poteaux, des tranchées qui permettent de restituer ces bâtiments. Voici ici la même chose au sol. C'est un véritable gruyère. Et l'étude de tout cela prend évidemment beaucoup de temps. Alors voici quelques plans d'habitation réalisés non pas à Coran mais sur d'autres oppida, d'autres villes de la même époque, à Variscourt ou Villeneuve-Saint-Germain, par exemple dans la vallée de l'Aisne actuelle. On trouve toujours le même modèle, c'est-à-dire que vous avez un ou plusieurs bâtiments qui sont inclus dans une sorte de cour de ferme, c'est-à-dire qu'on essaie d'appliquer, de greffer dans la ville plusieurs fermes. On ne quitte pas tout à fait la vie rurale, c'est-à-dire que ces bâtiments ne sont pas accolés comme cette image pourrait le laisser penser, mais on a plutôt affaire à des fermes en ville, c'est-à-dire des enclos ruraux qui sont accolés au sein du centre-ville, dans lesquels on retrouve des greniers, parfois des silos, des espaces dédiés au stockage des récoltes, des petites remises à outils, des séchoirs pour le foin, par exemple, et certainement des espaces où on pouvait garder du bétail à l'intérieur du centre-ville. Alors, ça nous semble assez archaïque, mais si l'on pense aux villes, en France, au XIXe siècle, eh bien, il n'était pas rare de rencontrer des poules, des cochons, des bœufs, des moutons en plein centre-ville, à Paris même. Alors ces maisons, elles sont très bien construites. Alors cet exemple-là n'est pas issu des fouilles de Coran, c'est une photo tirée des fouilles de Bibracte, dans le Morvan, dans la Nièvre actuelle, sur le Mont Beuvray, dans la Nièvre. Et vous avez un très beau plan de maison où vous distinguez non seulement la forme carrée de la maison, mais également des poteaux. Et ces poteaux, on voit qu'ils sont très bien taillés. Ils ne sont pas ronds, mais carrés. Donc on a affaire à des pièces de bois très bien équarries. On quitte complètement l'image de la petite hutte africaine ronde avec son toit de paille. C'est tout à fait différent. Vous voyez, les fouilles permettent vraiment d'avancer sur ces questions-là. Et on a affaire à des maisons de bois, des poteaux de bois équarries, carrés donc, ou rectangulaires, des murs en terre qui sont parfois peints. Ici, le schéma d'une petite maison avec sa construction tout à fait caractéristique. Ici, un petit schéma. Alors, parfois, on retrouve des traces de bois sur les clous en fer, par exemple. Les clous en fer ont conservé la trace des fibres de bois et ça nous permet de déterminer de quel bois il s'agit. Et ici, des outils, alors ce n'est pas une photo de fouille évidemment, qui ont servi, des outils traditionnels qui ont servi à tailler ces pièces de bois. Il arrive, dans certains cas, quand le terrain est très humide et permet la conservation des bois, qu'on retrouve des poteaux et ces poteaux peuvent être très finement sculptés, comme celui que vous avez sous les yeux, qui a été découvert, là encore, sur l'oppidum de Bibracte, dans la Nièvre. Alors ici, on revient à Coran. Voici une maison fouillée sur l'oppidum de Coran. Et vous avez ici l'empreinte des cloisons, des murs. Vous voyez, ce sont vraiment des fantômes de construction. Et un petit détail retient l'attention, c'est que ces constructions s'arrêtent, s'interrompent. Pourquoi ? Parce qu'on a une porte, tout simplement. Et à proximité de cette ouverture, on a découvert ce que vous avez ici, c'est-à-dire une clé en fer. Donc ces maisons étaient fermées, elles étaient gardées. Ça veut dire qu'il y a déjà des voleurs, comme nous le dit César dans son texte, des crimes qui peuvent être commis, et c'est pour se garder, pour préserver la maison de ces intrusions, eh bien, on ferme les portes à clé. Ça veut dire aussi qu'on a des biens à protéger, à défendre au sein de la maison. Ici, un petit regard sur la toiture des maisons, une charpente très bien construite. Et ces charpentes sont recouvertes, non pas, alors pas toujours, non pas forcément de paille ou de chaume, mais également de tuiles en bois, des bardeaux, que l'on retrouve parfois en fouille. Et vous avez ici, c'est tout à fait exceptionnel, deux petits bardeaux en bois découverts sur le site de Bibracte, dans la Nièvre. Parfois même, ces bâtiments gaulois sont recouverts de tuiles, exactement comme des bâtiments romains. Ces tuiles sont faites sur place, elles imitent des tuiles romaines. Ce sont des choses qu'on commence à trouver en Gaule à partir des années 80-70 avant notre ère. Donc, une génération avant la guerre des Gaules et l'arrivée de Jules César en Gaule. Donc, ce n'est pas un apport des Romains, mais ce sont des choses qui sont imitées par les constructeurs gaulois bien avant la conquête romaine. Et enfin, les petits fragments de terre conservés parce que brûlés, qui sont peints. Vous avez des traces de pigments ici, pigments rouges, qui montrent que ces murs étaient peints. Exactement comme on le fait dans les maisons en terre à Rome ou en Italie à la même époque. Voici évidemment comment on retrouve ces maisons, c'est beaucoup moins spectaculaire. En fait, on retrouve sur le sol des maisons, quand il est conservé, toute une série d'objets qui nous renseignent sur la vie domestique. Alors vous avez ici par exemple des céramiques, des tessons de poterie, d'amphores, de céramiques qui vont nous renseigner sur l'alimentation. Des ossements animaux, ce sont les petites parties blanches que vous avez ici, qui nous renseignent sur l'alimentation carnée. Et enfin, des meules à grain ici, qui montrent qu'on a moulu du grain dans l'espace domestique. Ce qui nous permet, ensuite, quand on cartographie les objets, d'identifier toute une série d'activités. Alors ce plan est très détaillé, vous voyez, on trouve, ça c'est une des maisons de Coran que je vous ai présentée tout à l'heure, avec la porte. Vous voyez d'ailleurs que la serrure a été retrouvée et la clé ont été retrouvées à proximité de la porte. Et vous avez toute une série d'objets qui renvoient soit au foyer domestique, à la cuisine, mais aussi à l'artisanat, à la toilette. Vous voyez ces petites pinces à épiler, cure-oreille que je vous présentais tout à l'heure, on les retrouve dans les maisons. Donc ça nous permet d'affirmer que les habitants de la maison que vous avez sous les yeux eh bien soignaient leur apparence, et des objets qui renvoient plutôt à l'artisanat, textile, la métallurgie ou à l'aiguisage de couteaux, à toute une série d'activités domestiques. Donc un plan comme celui-ci, je pourrais vous parler des heures uniquement sur la base de ce plan, parce qu'il nous permet vraiment de restituer toute la vie quotidienne, toute l'existence quotidienne des habitants de cette maison, qui est une maison importante. Et vous reconnaissez au passage la cour qui entoure la maison, ici marqué en jaune, avec ses dépendances, des appentis, des petits greniers ou des séchoirs, comme on en trouve dans les fermes que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors voici la restitution de la vie domestique, qui se fonde donc sur le résultat des fouilles. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors tout d'abord, ce qu'on trouve, ce sont des céramiques, des objets utilisés pour la cuisine ou pour boire, pour manger, qui étaient certainement conservés sur des étagères, sur des meubles en bois, qui n'ont laissé aucune trace. Ce qu'on retrouve également souvent autour des maisons ou dans les maisons, ce sont des caves, des espaces de stockage enterrés, soit des grandes caves, soit des petits celliers, et puis des citernes qui sont dédiées au stockage de l'eau. Alors en photo, ça donne ceci. Voici une grande cave fouillée à Coran il y a 2 ans, qui est comblée d'amphores, de céramique, et ici de meules qui servaient à moudre le grain. Voici une grande cave de plusieurs mètres de côté, réutilisée comme dépotoir, plutôt utilisée comme dépotoir au moment de l'abandon du site. On a également des petits celliers, des petites caves beaucoup plus modestes, qui étaient protégées par une trappe et auxquelles on accédait par des petites marches taillées dans le rocher à Coran, et dans lesquelles on stockait toutes sortes de choses, des amphores ici, qui contenaient du vin, ou alors des denrées, des pommes par exemple, des fèves, toutes sortes de choses, et ici un crâne humain. Alors pourquoi ça, Jeannick Ricard vous en parlera plus longuement. Là, je fais un petit peu de publicité pour les collègues qui vont me succéder, mais parce que vous apprendrez que les Gaulois appréciaient beaucoup les crânes et qu'ils conservaient les crânes de leurs ennemis tués, qu'ils embaumaient, qu'ils conservaient dans des sortes de coffres, simplement pour démontrer leur bravoure et pour célébrer, commémorer des victoires remportées sur l'ennemi. Le point le plus important de la maison, c'est bien entendu le foyer. C'est le point de focalisation de la maison au sens propre. Et autour du foyer, on trouve toute une série d'ustensiles, des ustensiles de foyer, bien entendu, des grilles, des chenets, des vases qui servent à la cuisine. Alors voici comment ils se présentent, ces foyers. Ce sont des aires brûlées avec des petits tessons qui sont utilisés pour leur qualité réfractaire. On utilise la céramique cassée pour conserver la chaleur. Et ces foyers s'allumaient à l'aide de petits briquets. Et on retrouve ces briquets à Coran, on en a retrouvé un grand nombre, très souvent à côté des foyers. Ce sont des petits galets de quartz qu'on frottait à l'aide d'un petit objet métallique, qui est le briquet proprement dit, un petit objet en métal, et on obtenait des étincelles qui permettent d'allumer le feu, et c'est exactement ce qui est présenté ici sur la photo. Vous avez un personnage qui allume le feu, enfin il l'a déjà allumé en l'occurrence, mais à l'aide d'un petit briquet en quartz ou en silex. À proximité ou sur les foyers, on trouve évidemment des vases à cuire. Des vases culinaires qui servent à mijoter, à bouillir, à préparer les plats. Et l'étude de ces vases va nous renseigner sur le régime alimentaire des habitants de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les vases? On trouve une sorte de caramène alimentaire dans certains cas. C'est-à-dire que les aliments qui ont cuit dans le vase, bon, on a oublié l'aliment sur le feu, l'eau s'est évaporée. Vous avez tous fait ça un jour, au moins dans votre vie. Et on retrouve une croûte. Et puis parfois, on ne peut pas récupérer la croûte. Et heureusement pour les archéologues, parce qu'on la retrouve. Et ça permet d'identifier, comme ici, une bouillie de millet. Donc, réalisé à l'aide de céréales, et donc qui nous prouve que les Gaulois mangeaient des bouillies de céréales. des céréales qui peuvent être des différents types, de l'orge, du blé. On a vu comment elles étaient cultivées à la campagne, et François Valerin vous en parlera plus longuement d'ici quelques semaines. Ces céréales, elles sont moulues à l'aide de meules circulaires qui sont, c'est un principe importé d'Italie. Alors, soit les meules sont importées, soit on les fabrique en imitant les meules romaines sur place. Et le principe est simple, on met une réserve de grains ici en haut et on tourne la meule. J'ai une photo ici, on tourne la meule assez rapidement, c'est ce qu'on appelle une meule à bras, ça tourne assez vite et ça permet d'obtenir de la farine. Cette farine ou ces graines sont stockées dans des grands vases de stockage qu'on appelle des dolias. Elles sont cuites dans des pots à cuire, consommées dans des petites écuelles, des jattes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation de base des Gaulois, c'est une alimentation modeste, paysanne, qui est constituée de bouillies. Des bouillies de céréales, de légumes, de légumineuses, des fèves, des lentilles, qu'on agrémente ou non, selon ses moyens, de viande, parfois, de poisson. Mais c'est l'alimentation de base des Gaulois. Il faut attendre l'époque romaine pour voir apparaître des alimentations plus solides, des galettes, des pains. On connaît le pain très anciennement, on en a fait déjà dès la préhistoire en France, en Gaule. Mais il semblerait qu'on consomme plutôt l'alimentation sous une forme liquide. À Rome même, il faut attendre un stade assez avancé de la République, hein, 3e, 2e siècle avant notre ère, pour qu'on arrête de consommer de la bouillie et qu'on se mette à consommer du pain. Quand on se met à consommer du pain, on se met aussi à consommer du vin, parce qu'il faut arroser tout ça, c'est une nourriture sèche. Mais à l'époque gauloise, on consomme surtout des bouillies, des soupes, un peu comme au Moyen-Âge, les chaumières que je vous montrais tout à l'heure au 19e siècle. On imagine bien l'alimentation de ses occupants. Parfois, on trouve des vases qui sont percés, comme ici, qui sont des faisselles, qui servent à réaliser des fromages, à égoutter le lait. Réaliser du beurre, du fromage, et ce sont des ingrédients qui rentrent effectivement dans l'alimentation des Gaulois. Voici ici la restitution d'une table gauloise avec différents aliments, des petites galettes, parce qu'on cuisait malgré tout des galettes dans des fours, qu'on retrouve parfois, de la viande, des légumineuses, des lentilles, des fèves, etc. Ce qu'on retrouve également dans les habitats, ici, non pas à Coran, mais c'est un autre site de la région lyonnaise, le site de Larina, on retrouve des ustensiles de cuisine. Alors par exemple, on retrouve ces grandes forces que je vous montrais tout à l'heure, des grilles qui servent à griller la viande, des couteaux qui servent à la découper et de grandes fourchettes qui permettent de retourner les morceaux de viande ou de les plonger dans le chaudron. Quand on réalise de la viande bouillie, et on trouve parfois des poignées de chaudron, des grandes louches aussi qui permettent de remuer la sauce ou de la puiser, et de la transvaser. Donc ce sont des ustensiles de cuisine qui nous renseignent évidemment sur les pratiques culinaires des Gaulois. Alors qui dit couteau, qui dit grille, dit bien entendu non pas bouillie de céréales, mais viande. Et cette viande, on la retrouve dans les habitats gaulois sous cette forme. Il ne faut pas imaginer qu'on mangeait de la viande tous les jours. En France même, jusqu'à une date récente, avant-guerre, eh bien, on ne mangeait pas de viande tous les jours. Évidemment, l'alimentation de base était constituée de légumes, de céréales, elle était essentiellement végétale. Et à l'époque gauloise, c'est la même chose, sauf seules les classes les plus aisées, les aristocrates, les chevaliers, ceux qui ont les moyens de s'acheter du bétail ou parfois de partir chasser, eh bien, mangent de la viande tous les jours, au moins toutes les semaines. Alors, cette viande, on la retrouve sous la forme d'ossements, comme sur le sanctuaire. Et en fait, le travail des archéologues consiste souvent dans l'étude de dépotoirs domestiques. Et que font les archéozoologues? C'est ce qui est expliqué dans l'exposition. Eh bien, ils comptent les os, ils comptent les espèces, les parties d'animaux. Et ça nous permet de restituer le régime alimentaire des populations qui vivaient là. Et ce qu'on observe, c'est que ces dépotoirs gaulois, eh bien, contiennent essentiellement des espèces domestiques, de l'élevage. Là aussi, exit l'image des Gaulois qui partent chasser tous les jours, le sanglier ou le roc, qui vivent au milieu des loups et des bêtes sauvages. En l'occurrence, dans les dépotoirs, ce qu'on trouve, c'est des animaux domestiques. Très rarement du sanglier, très rarement du cerf, exceptionnellement, et seulement dans les habitations les plus riches. On peut dire que les Gaulois mangeaient presque moins de gibier que nous aujourd'hui à l'époque de la chasse, en automne. Bon, ce qu'on trouve, c'est essentiellement du porc, du bœuf et du mouton, comme le montrent ces quelques dépotoirs analysés ici en dessous, dans le Rouennais, en région Auvergnate actuelle. Alors, le sanglier, d'où ça vient? Ça vient sans doute du fait que les petits porcs gaulois étaient très velus et ils ressemblaient à des sangliers. C'est une espèce, le Suscrofa domesticus, qui est assez proche du sanglier, qui a certainement été confondu par les voyageurs grecs ou romains avec des sangliers. Ou alors, l'autre explication plausible, c'est qu'on a servi à ces voyageurs un mets de choix, c'est-à-dire du gibier. Mais disons, un Chinois qui viendrait manger chez vous à l'époque de Noël déduirait peut-être du plat que vous lui servirez que les Français mangent du foie gras tous les jours. Ce n'est pas le cas, évidemment. Bon. Ce qu'on trouve dans les fouilles de Coran, c'est assez intéressant, ce qu'on commence à trouver, mais là, il faut être très, très pointilleux, très méticuleux dans les méthodes de fouilles, ce sont des arêtes de poisson. Ici, vous avez la colonne vertébrale d'un petit poisson qui nous confirme, ça les textes nous le disent, notamment Posidonios nous l'affirme, que les Gaulois mangent également du poisson grillé, bouilli. Poisson de rivière, en l'occurrence. C'est sans doute pas un poisson importé de loin, de la mer. On est en Auvergne. Qui dit produits de la mer, puisque je les évoque, dit également, ça pose la question du sel. Et là, je pense que François Malrin vous en touchera un mot également. On produit du sel, ou plutôt on extrait du sel sur la façade atlantique, près de la mer, et ce sel, on va l'exporter dans des petits récipients céramiques, des petits godets, des petits objets à sel, dont on retrouve parfois la trace sur les sites gaulois, qui prouve qu'on importait, on allait acheter du sel, et ça c'est une denrée qui est très précieuse évidemment, qui a beaucoup circulé encore à l'époque médiévale, à l'époque moderne, et qui se payait très très chèrement, et donc on achète du sel pour l'utiliser comme condiment dans le cadre des plats. Ce qu'on retrouve dans les fouilles, ce sont les vases à boire, des vaisselles, des cruches qui servaient alors à conserver des boissons, à les servir, de grandes jarres qui servaient à conserver les boissons, des cruches utilisées pour les servir, et puis des vases qui servaient à consommer, à boire ces mêmes breuvages. Alors, que buvait-on ? Eh bien, évidemment, en première ligne, de l'eau. Alors, vous avez ici des grands vases à boire qui sont plutôt des vases utilisés pour la consommation d'alcool. Mais la première chose que l'on consomme, c'est de l'eau qui est soit puisée dans des puits à eau qu'on trouve dans les habitats ou des citernes, creusées à proximité des habitats. Ici, deux exemples de puits citernes à Coran, ici près d'une habitation. Vous avez le plan de l'habitation et juste à côté un petit puits qui n'est pas très profond. Il fait à peine 2 mètres de profondeur, mais ça suffisait pour aller capter l'eau qui parcourt le basalte sous-jacent. Ici, vous avez une petite citerne creusée selon le même principe et très bien appareillée. Vous voyez, c'est très bien construit à l'aide de petites pierres sèches. Et cette citerne est en eau parce qu'elle, dès lors qu'on l'a vidée en fouille, elle a retrouvé sa fonction immédiatement. Elle a capté toute l'eau du sous-sol environnant. Mais ce que l'on consomme, c'est l'image de cette citerne restituée par l'informatique, mais ce que l'on consomme, eh bien, surtout, c'est ce que vous avez ici à côté. Ce que l'on consomme, c'est surtout du vin d'Italie. Alors, on me demande de presser un petit peu parce que le temps est limité. Je suis navré, je suis très bavard, donc je vais passer très rapidement sur ces questions. On consomme du vin qui est importé d'Italie. Alors, simplement pour vous dire qu'on importe beaucoup de vin à l'époque gauloise, des millions d'amphores qui sont transportés sur des bateaux par mer, par fleuve, et qu'on retrouve en Gaule en très grand nombre. On consomme ce vin, vous voyez, ce sont des images prises à Coran avec des amphores vinaires qui sont conservées dans une sorte de taverne, ici restituée, avec une grande cave qui fait près de 20 mètres de long, avec des centaines d'amphores à l'intérieur. Ça implique évidemment des voies, des routes, qu'on le retrouve en fouille actuellement. Là, je passe sur tous ces objets qui viennent de très loin. Une petite carte qui nous montre l'origine des objets retrouvés sur les fouilles de Coran. Il y en a énormément. Et vous voyez, ils proviennent de tous les coins de la Méditerranée, d'Italie, de Gaule du Sud, mais aussi de Grèce et même d'Orient. On trouve à Coran des coupes en verre produites en Syrie-Palestine et utilisées par les aristocrates gaulois pour boire. Les amphores sont si importantes qu'on les retrouve sur les monnaies. Alors, parlons des monnaies très rapidement. On commerce beaucoup dans ce monde gaulois de la fin de l'indépendance. Et on retrouve des monnaies, toutes sortes de monnaies, en or, en argent, en bronze. Des balances qui servent à peser des alliages également. Et ces monnaies, on les fabrique également sur place. On utilise des monnaies grecques et romaines. Mais très tôt, dès le 3e, 2e siècle avant notre ère, les Gaulois se mettent à produire leur propre monnayage. Ces échanges, ils se déroulent dans des grandes places de marché. Et là, vous avez l'image d'une place de marché fouillée à Coran, au nord du sanctuaire, dans laquelle on a retrouvé toutes sortes de boutiques et d'ateliers qui entourent cette place, avec des métiers que je vais vous présenter très rapidement. On passe très rapidement puisque l'heure tourne. On a tout d'abord des ateliers de métallurgie, des ateliers de bronziers qui produisent des petits bijoux en bronze avec des enclumes que l'on retrouve en fouille. Donc on retrouve les outils, la matière première, les déchets de fabrication. Ici, des petits moules pour fabriquer des pastilles en bronze. Ici, une petite enclume. Là, des produits, des fibules qui ne sont pas terminées, les petites agrafes que je vous montrais tout à l'heure, des bracelets en bronze. Là, des déchets de fabrication, des scories en bronze avec une petite gouttelette d'or. Ici, on travaille aussi l'or et l'argent. Ici, l'atelier d'un plombier qui fondait le plomb. C'est une première. Hein. On sait que les Gaulois fondaient le plomb. Et également des ateliers de boucher. On retrouve eh bien, toute cette viande qui est consommée sur le sanctuaire et dans les habitats. Il a bien fallu abattre et préparer la viande, les animaux et préparer la viande. Et on retrouve donc des traces de boucherie. Et à partir d'un bœuf, eh bien, on réalise toute une série de produits secondaires, notamment des petits objets, des petits bijoux, des perles en os, comme ici. On récupère les os pour faire des perles. Et on récupère les peaux pour faire des vêtements en cuir. Et ça fait partie des métiers que l'on trouve dans les centres-villes gaulois. Pour la première fois, on a identifié à Coran l'atelier d'un corroyeur et d'un cordonnier. On a tous les outils utilisés pour le raclage des peaux, pour leur mise en forme et pour la fabrication de chaussures. Ces fameuses chaussures que je vous montrais tout à l'heure au martre de verre. Ce qu'on trouve également sur les habitats sont des outils utilisés, des instruments plutôt utilisés pour le textile, la couture du cuir d'une part, mais aussi des textiles, des petites fusaïoles réalisées, utilisées pour le filage de la laine, du lin et des métiers à tisser qui permettaient de tisser les vêtements. Donc ces vêtements que je vous présentais tout à l'heure, ils sont réalisés en partie soit dans les campagnes ou alors dans les centres-villes. Et c'est un artisanat qui est plutôt féminin, comme le montre la figure de gauche. donc plutôt réalisées par les femmes dans le cadre de la maison, de l'espace domestique. Et j'en termine avec un aspect qu'on a très peu évoqué dans tout cela, c'est la question des enfants. Alors les femmes, les textes nous en parlent très peu d'une part, parlons tout d'abord des femmes, les textes nous en parlent très peu, sinon pour nous dire qu'elles sont effrayantes, qu'elles sont monstrueuses, qu'elles sont farouches, très violentes dans le cas de conflits guerriers, elles n'hésitent pas à prêter main forte aux guerriers masculins. Là, on est dans les clichés, pas grand-chose à tirer de ces textes. Strabon nous dit qu'elles sont très fécondes. Bon, est-ce qu'il faut prêter foi à ces récits? C'est pas très important. César nous en parle un petit peu plus en détail, en revanche, et nous donne quelques informations intéressantes. Il nous parle des mariages, notamment. Il nous dit que dans les classes modestes, on se marie plutôt entre soi, dans le cas d'un village ou d'un peuple, d'une tribu, alors que chez les aristocrates, on n'hésite pas à contracter des mariages entre peuples éloignés, comme on le fait au Moyen-Âge. Dans la royauté encore actuelle, voilà, entre le prince de Yougoslavie et puis la reine d'Angleterre, on peut contracter des mariages. C'est la même chose à l'époque gauloise. César nous parle de pratiques d'achat de femmes, d'échange de dots. Et César nous dit que la femme gauloise, l'homme est le chef de la famille, on est dans une société patriarcale, mais la femme gauloise jouit quand même d'un statut relativement important et surtout elle a le droit de posséder ses propres biens, qu'elle conserve après le décès de son mari, par exemple, ou même en cas de divorce. Et par ailleurs, César nous dit que les Gaulois sont généralement monogames, mais qu'ils peuvent être polygames. Vous avez une épouse principale, et puis les autres épouses sont considérées comme de simples concubines. Donc voilà, les Gaulois ont pratiqué la polygamie en un temps reculé. Et enfin, eh bien, la question des enfants, puisqu'il faut bien, c'est le dernier point que je voulais aborder. Alors, très peu de choses sur les enfants, sinon, comme dans le texte de César, pour nous dire qu'ils s'instruisent auprès des guerriers, qu'ils reçoivent un enseignement religieux guerrier, mais on nous parle très peu des enfants, parce qu'évidemment, ils interviennent peu dans les conflits guerriers, donc les textes nous en parlent très peu. Mais parfois, les fouilles nous permettent, comme ici à Coran, de découvrir ce qui est assez émouvant, ce sont des squelettes de bébés, d'immatures, donc de tout petits enfants, tout jeunes enfants, 1 ou 2 ans. Les morts étaient généralement enterrés en dehors de la ville, même toujours. On ne retrouve jamais les morts dans la ville, sauf sur les sanctuaires. Ce sont les morts un peu particuliers, des ennemis décapités. Voilà. Mais les morts sont relégués à l'extérieur de la ville, comme à Rome, comme en Grèce. Comme toujours. En revanche, les jeunes enfants, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres adultes à part entière, ils n'ont pas passé tous les stades de l'initiation qui mènent de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, eh bien, eux, on les conserve dans l'espace domestique. Et les deux petits bébés que vous avez ici, c'est assez émouvant, ils ont été découverts l'été dernier à Coran, sous le seuil d'une maison. Donc, ils ont été conservés à l'intérieur de la maison. Donc, ce sont deux petits bébés qui sont morts dans les années 70 avant notre ère, quelques années avant la guerre des Gaules. Et puis, on cerne un petit peu la présence des enfants au travers de petits jouets. Alors, savoir s'ils ont été utilisés par des adultes ou des enfants, ce sont des petits dés à jouer en os. Il arrive qu'on retrouve dans les fouilles des petits hochets, des petits dés. Voilà. Alors, vous voyez que les fouilles permettent vraiment de faire une sorte d'anthropologie gauloise. Ça permet d'aller assez loin dans la reconstitution du cadre de vie, du mode de vie des populations. Et c'était évidemment le but de cette exposition. Ce dont je vous ai parlé là, rapidement, en tout cas sur la fin, évidemment, vous trouverez des informations complémentaires dans le cadre de l'exposition, d'une part, mais également dans le cadre de l'ouvrage, du catalogue qui accompagne l'exposition, dans l'ouvrage « Qui était le Gaulois ?», édité conjointement par Universcience et les éditions La Martinière. Et enfin, pour ce qui concerne plus spécifiquement le site de Coran, l'Oppidum de Coran, c'est un ouvrage que nous avons édité l'été dernier, qui s'intitule « Coran, voyage au cœur d'une île gauloise », donc qui regroupe à peu près tout ce que je vous ai présenté là sur la vie urbaine, il y a un instant. Malheureusement, l'ouvrage est épuisé actuellement, on ne le trouve pas, il va être réédité ce printemps, assez rapidement, et il inclura de nouveaux chapitres, puisqu'évidemment, les fouilles avancent, et on pourra rajouter des choses qui ne figuraient pas dans l'ouvrage précédent. Voilà, je vous remercie pour votre patience, je m'excuse d'avoir été bavard.